France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les projets d'Emmanuel Macron pour la justice. Le chef de l'État souhaite que la Cour de justice de la République soit supprimée, mais il assure que le parquet doit rester rattaché à la garde des Sceaux. Compte rendu d'Anne Fauquemberg ce matin de cette intervention d'Emmanuel Macron. Le mouvement dans les prisons, avec la principale revendication des syndicats de surveillants qui a été satisfaite ce matin, le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil, le théâtre de l'agression de trois gardiens par un détenu djihadiste il y a quelques jours, a démissionné. Nous ferons le point avec Xavier Demagny. Renault, qui espère devenir le numéro 1 mondial de l'automobile devant Volkswagen et Toyota, avec un groupe qui annonce une hausse de 8,5% de ses ventes en volume sur l'année, précision d'Hakim Kasmi. On reviendra aussi sur ce texte de Catherine Deneuve qui défendait, on s'en souvient, le droit d'importuner et qui, ce matin, sur le site de Libération, présente des excuses aux victimes d'agressions qui se sont senties offensées par cette tribune suivie avec Benoît Bouscarel. L'invité de la séquence interview, Marie-Jeanne Audy, qui est secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Au lendemain des 70 ans des CDN, retour sur la première partie, le premier acte de la décentralisation culturelle. Et puis scénario avec nos invités pour un acte 2. Irina Brook et David Bobet, tous deux metteurs en scène qui dirigent des structures en région, elle à Nice, lui à Rouen, resteront avec nous et seront rejoints par le documentariste Daniel Kling qui signe un documentaire en salle en ce moment, une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation.
Emmanuel Macron était donc ce matin devant l'audience solennelle de la Cour de cassation. En juillet, on s'en souvient, il s'était prononcé pour la suppression de la Cour de justice de la République, qui est chargée de juger pénalement les membres du gouvernement pour des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et il avait promis aussi de renforcer l'indépendance du parquet. Et bien donc ce matin, il souhaite effectivement la suppression de la Cour de justice de la République, mais il souhaite aussi que le parquet soit rattaché, reste rattaché à la garde des Sceaux. Bonjour Anne Fauquemberg, voilà ce qu'il faut retenir essentiellement de ces déclarations ce matin.
Oui, Emmanuel Macron s'est donc exprimé ici dans le décor chargé de la grande chambre de la Cour de cassation. Discours construit en deux points, l'indépendance de la justice et l'effectivité de cette même justice. Sur l'indépendance, la future réforme constitutionnelle comprendra bien un volet justice. Les magistrats du parquet seront nommés après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire que ces nominations ne dépendront plus du garde des Sceaux. C'est déjà le cas pour les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges. On assiste donc à un alignement au niveau de la nomination des magistrats. François Hollande l'avait annoncé mais n'avait pas pu concrétiser cette décision. Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, se dit toutefois très attaché au parquet à la française. Il se doit d'être rattaché à l'autorité du garde des Sceaux, a-t-il précisé. Le parquet doit appartenir à une chaîne hiérarchique. Pas question donc de créer un parquet général de la nation, comme l'avait évoqué Jean-Claude Marin, le procureur général de la Cour de cassation, juste avant dans ses réquisitions. Emmanuel Macron annonce aussi la suppression de la Cour de justice de la République qui avait jugé encore l'année dernière, on s'en souvient, Christine Lagarde sans la condamner. Mais Emmanuel Macron précise que les ministres qui doivent être jugés doivent pouvoir être protégés dans les fonctions qui sont les leurs. Voilà ce qu'on peut retenir donc sur ces avancées qui concernent l'indépendance de la justice, concernant l'effectivité des peines. On va y revenir peut-être dans un instant, Antoine, après la réaction de votre invité, parce que Emmanuel Macron s'est un petit peu avancé sur les annonces de cet après-midi de Nicole Belloubet.
Effectivement, cet après-midi, en vue de la réforme de la justice, il y aura des propositions qui vont être mises à la garde des Sceaux. Et donc, on en reparle évidemment avec vous, Anne Fauquemberg, mais tout de suite sur les déclarations, on va dire, essentielles concernant le rapport entre le judiciaire et le politique. On est avec Marie-Jeanne Audy. Bonjour.
Bonjour.
Secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Donc, ces annonces, j'imagine, ne sont pas à la hauteur de vos attentes en matière d'indépendance de la justice.
Nous sommes extrêmement déçus parce que, bon, certes, pour être en marche, il suffit de faire un pas, mais là, on évite tout juste le pas en arrière. Contrairement à ce qui a été indiqué tout à l'heure, il n'y a pas d'alignement du statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, et la carrière, la nomination des magistrats du parquet reste dans les mains du garde des Sceaux.
Là-dessus, pas de changement. Le pouvoir politique veut continuer à contrôler la nomination des magistrats du parquet.
Exactement, il y a une volonté du pouvoir politique de continuer à contrôler le parquet, notamment les nominations, mais également la gestion de la carrière des magistrats du parquet.
Alors, sur ce plan-là, le nouveau monde n'est pas tout à fait nouveau.
On reste dans l'ancien monde. C'est extrêmement, extrêmement décevant parce que tous les clignotants étaient ouverts pour cette évolution. La Cour européenne des droits de l'homme nous invite à faire ce pas puisqu'elle n'arrête pas de dire dans les arrêts Medvedev et Moulin que le ministère public français n'est pas une autorité judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque l'indépendance. Il lui manque l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Comment vous expliquez cette volonté de conserver en main cet appareil-là ? Enfin, cette
nomination. Ça ne peut être qu'une volonté politique de conserver la main sur la magistrature et notamment sur la magistrature du parquet.
En ce qui concerne la Cour de justice de la République et sa suppression,
c'est pas une surprise. Il était grand temps.
Alors, on va voir maintenant, si vous voulez bien, les annonces du président, notamment enfin, ce qui va être fait pour la réforme de la justice de façon plus large, puisque des propositions vont être mises à la garde des Sceaux cet après-midi, qui concernent, par exemple, la transformation numérique, la simplification des procédures pénales et civiles, l'organisation territoriale ou encore l'efficacité dont vous parliez tout à l'heure, Anne Fauquemberg, l'efficacité des peines. Oui. Donc, vous avez des précisions sur ces mesures, ces propositions ?
Oui, alors, Nicole Belloubet, elle s'exprimera cet après-midi à 16h depuis la place Vendôme. Les magistrats ont été consultés l'année dernière entre le mois d'octobre et le mois de décembre sur les 5 grandes priorités du quinquennat en matière de justice et donc la restitution de ce travail cet après-midi. On a parlé de la simplification des procédures pénales et civiles avec, par exemple, en ce qui concerne la justice civile, l'idée de mettre en place des médiateurs pour éviter des procédures longues et coûteuses. C'est ce qu'on pourrait appeler la justice restaurative. Il y a un grand chantier aussi sur le sens de la peine et donc son effectivité. Alors ça, c'est très important pour Emmanuel Macron. Il en a parlé beaucoup ce matin, que les petites infractions fassent l'objet d'une réponse rapide, visible pour les citoyens. Et pour faciliter le traitement de ces plaintes, un grand chantier numérique va être lancé jusqu'à l'été 2020 avec une grande plateforme à terme pour la justice civile. On devrait pouvoir d'ici quelques années, et c'est le cas aussi d'ailleurs pour la justice pénale, travailler sur la base d'un dossier numérique dématérialisé. Et puis, dernier grand chantier du quinquennat, c'est la réforme de la carte judiciaire. On se souvient à ce sujet de l'ex-garde des Sceaux, Rachida Dati, qui avait supprimé de nombreuses juridictions du temps de Nicolas Sarkozy, mais elle n'avait pas touché aux cours d'appel. Il y en a actuellement 36 en France qui ne correspondent plus forcément aux nouveaux contours administratifs des nouvelles régions. Il est question donc d'en supprimer, ce qui suscite l'inquiétude déjà dès aujourd'hui des élus locaux et des avocats.
Anne Fauquemberg, merci beaucoup. Un tout petit mot encore, Marie-Jeanne Audi, là-dessus. Est-ce qu'il y a une idée générale qui préside à toute cette réforme, cette politique aujourd'hui du gouvernement et du président?
Notre crainte, c'est que cette réforme, ce soit de limiter l'accès au juge par tous les moyens, peut-être en éloignant le citoyen de son juge, en renonçant à l'appel tel qu'il est conçu également. Il y a un problème de moyens qui est évident, que tout le monde connaît, et plutôt que de chercher à s'y attaquer, à donner les moyens à la justice pour fonctionner correctement, on s'interroge pour savoir comment on va limiter l'accès aux juges.
Marie-Jeanne Audi, merci beaucoup. On vous retrouve pour la séquence interview à la fin de cette édition. On passe au mouvement dans les prisons. C'était la principale revendication des syndicats de surveillants. Le directeur de cette prison, de Vendin-le-Vieil, qui a été le théâtre, on le sait, de l'agression de 3 gardiens par un détenu djihadiste. Eh bien, ce directeur de prison a démissionné ce matin. Du coup, il y a des blocages d'établissements qui commencent à être levés. Au moins la moitié des prisons françaises avaient été touchées quand même par ce mouvement de colère des gardiens qui dénonçait évidemment aussi indépendamment de cet incident nouveau, leurs conditions de travail. Xavier Demany, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que le mouvement est en train de s'effilocher ou de se calmer ?
On n'en est pas encore là, hein, mais effectivement, les surveillants, vous l'avez dit, ont obtenu le départ du directeur de la prison. Je considère que je ne peux plus gérer cet établissement dans la sérénité, dit ce matin Richard Bauer, directeur arrivé en 2011 à Vendin-le-Vieil. Un premier point qui devrait rendre un tout petit peu moins délicate la visite de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, demain dans le Pas-de-Calais. Mais pour Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO Pénitentiaire, c'est loin de résoudre tous les problèmes.
Nous, on aurait préféré que ce soit la ministre qui le démette de ses fonctions et non pas qu'il démissionne. Il est parti, nous ce qu'on veut maintenant, c'est des réponses. C'est une gestion spécifique pour ces détenus violents, pas que terroristes, tous les détenus violents. Aujourd'hui, on agresse dans nos prisons pour tuer. Aujourd'hui, on a une société violente. Et le problème, c'est qu'on gère les détenus comme on les gérait il y a 20 ans, c'est-à-dire avec un sifflet dans la poche. C'est plus possible, il faut qu'on ait de la sécurité.
Voilà, il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité de cet incident de jeudi, mais les surveillants reprochent déjà à la ministre d'arriver un peu tard. Et puis surtout, ils racontent, hein, vous l'avez entendu, la peur au quotidien, les bâtiments délabrés, la surpopulation, leur manque d'autorité face à des détenus qui ont changé, passé d'un profil grand banditisme, disons, à notamment ces détenus très violents ou radicalisés. On a 20 ans de retard, disent les syndicats, qui réclament des mesures d'urgence pour sécuriser leur travail et mieux gérer ces détenus dangereux. Alors, Alors, de là à parler donc de fin du mouvement, c'est difficile, d'autant que certaines prisons sont encore bloquées ce midi, à Fresnes, Marseille, Villepinte, Limoges, Pau ou Mont-de-Marsan. L'UFAP, UNSA Justice, la CGT et FO Pénitentiaire parlent d'un mouvement reconductible, de tout faire au ralenti, des syndicats déterminés à perturber notamment le déplacement de Nicole Belloubet dans le Pas-de-Calais demain.
Xavier Demagny, merci. Les lycéens de terminale découvrent la nouvelle plateforme d'inscription pour les études dites post-bac, qui s'appelle maintenant Parcoursup, succède donc à l'APB. Pour Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle, qui était interrogé sur France Inter, le gouvernement ne veut pas vraiment investir dans l'enseignement supérieur. Sa réaction.
Mais le système du tirage au sort ne satisfaisait personne. La question, c'est par quoi le remplace-t-on ? On le remplace donc par la sélection à l'université. La réalité de ce gouvernement, c'est qu'il
vous
fait le choix...
Vous n'allez pas un peu loin, sélection ?
Non, bah, les prérequis, c'est de la sélection. Ça existait déjà, hein, mais c'est de la sélection à l'entrée de l'université désormais. La question, c'est, aujourd'hui, décourage-t-on des étudiants, ou en tout cas des lycéens et des bacheliers, de rentrer à l'université? Oui. Lesquels? Ceux qui seront dans les villes moyennes, ceux qui ont un bac techno, un bac professionnel. Ceux-là seront découragés de poursuivre leurs études. C'est l'exact contraire de la promesse qui était celle d'Emmanuel Macron d'encourager la jeunesse. Eh bien, sachez donc, quand vous êtes aujourd'hui en bac pro ou en bac technologique, que ce gouvernement est en train de vous fermer la porte de l'enseignement supérieur.
Benoît Hamon était avec Léa Salamé ce matin sur France Inter. Les mesures du budget 2018 pour les ménages n'auront quasiment pas d'effet sur leur pouvoir d'achat cette année. C'est ce qu'affirme en tout cas une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et ces mesures devraient davantage en revanche profiter aux plus aisés. Étude intitulée « Budget 2018, pas d'austérité mais des inégalités ». Ça risque d'alimenter évidemment le débat entre le gouvernement qui met en avant les gains de pouvoir d'achat, les réformes destinées à orienter l'épargne vers l'économie réelle, et puis l'opposition de gauche qui régulièrement dénonce des mesures jugées favorables aux plus riches. Anne-Laure Chouin, ça apporte de l'eau au moulin peut-être des derniers.
Alors en tout cas, c'est une analyse fournie par l'OFCE pour évaluer d'une part l'impact du budget 2018 sur le pouvoir d'achat des Français, en effet, et d'autre part son effet redistributif. Globalement, souligne cet observatoire classé à gauche, on le rappelle, on assiste à une réduction de la fiscalité du capital, principalement via la réforme de l'ISF et ce prélèvement forfaitaire unique de 30%, le nom donné à la flat tax, une poursuite de la baisse de la fiscalité des entreprises, entamée sous le gouvernement précédent via la baisse de l'impôt sur les sociétés et le CICE transformé en baisse de charges pérennes, et à une augmentation globale des prélèvements directs et indirects sur les ménages. Certes, il y aura une baisse des prélèvements directs, la taxe d'habitation et les cotisations sociales notamment, mais elles ne compenseront pas totalement la hausse des prélèvements indirect, taxe sur le tabac et le diesel notamment, et celle de la CSG pour les retraités notamment. Ce qui nous donnera, selon les analystes de l'OFCE, une hausse de PIB de 0,1% 1 point pardon, en 2018 et de 0,3% en 2019. À qui profitera cette hausse ? Presque à tout le monde, mais surtout aux 2% des ménages les plus riches, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'essentiel du capital mobilier, en gros les placements, les actions, etc. Pour les ménages les moins riches, les revalorisations de certains minima sociaux ne compenseront pas les hausses de la fiscalité indirecte dont on a parlé. Pour les classes dites moyennes, pas de changement. Les classes moyennes riches, elles, vont y perdre un peu. Ceux qui gagnent bien leur vie, mais qui n'ont pas de patrimoine et qui continueront donc de payer la taxe d'habitation. En 2019, l'OFCE prévoit, si pas de mesures nouvelles, une hausse générale du niveau de vie, avec toujours des gains plus importants pour les ménages les plus aisés que pour les moins riches. Autre analyse délivrée par l'OFCE, un surplus de croissance attendu, fruit direct des réformes du gouvernement Hollande.
Anne-Laure Chouin, merci. Renault affirme espérer devenir le numéro 1 mondial donc, du secteur de l'automobile, devant Volkswagen et Toyota. En incluant la performance de ses partenaires Nissan et Mitsubishi, le groupe français a effectivement commercialisé 3 762 000 voitures et véhicules utilitaires légers l'an dernier. Ça fait 8,5% de hausse des ventes en volume sur l'année. Nouveau record donc de vente pour le groupe aux losanges. Cinquième année consécutive de croissance en volume à Kim Kasmi. Donc peut-être cette première place est-elle accessible?
Oui, des bons résultats qui s'expliquent, Antoine, par de nouveaux modèles, mais aussi par la bonne santé du marché européen qui repart bien avec 5,6% des hausses l'année dernière. Mais surtout en Asie, avec une augmentation de 17% dans la zone Pacifique et 13% dans la zone Eurasie. Pour cette année, le constructeur table sur une hausse de 5% au Brésil, qui est le pays des Amériques latines qui se porte le mieux pour le groupe Renault, et le 10% en Russie. Alors on le voit, le succès du groupe est lié en très grande partie à l'international, mais aussi grâce à ses différentes marques au sein de l'Alliance, à commencer par la japonaise Toyota et Mitsubishi, mais aussi par la russe Lada, dont Renault détient 53% du capital. Lada qui a connu la plus forte hausse du groupe avec une hausse de 17,8% de ses ventes. Sans oublier Dacia, Dacia spécialisée dans les modèles low cost, qui contribue en grande partie au bon résultat de Renault et qui devrait même lui permettre d'atteindre la place de numéro mondial, tout simplement parce que les modèles low cost représentent aujourd'hui un tiers des ventes de Renault.
Hakim Kasimir, merci. Airbus prévoit, lui, près de 800 livraisons d'avions commerciaux cette année. L'avionneur européen qui surpasse Boeing, son grand rival, l'an dernier pour la cinquième année d'affilée dans le match des commandes entre les deux avionneurs, donc avec un total net de plus de 1100 avions vendus contre un peu plus de 900 pour l'Américain. Catherine Deneuve revient sur son texte défendant le droit d'importuner, un texte, nouveau texte publié sur le site de Libération, où elle présente des excuses aux victimes d'agressions qui se sont senties offensées par cette tribune, tribune polémique dont on a parlé sur cette antenne, de nombreuses fois que l'actrice a récemment signé donc avec plusieurs dizaines d'autres femmes pour défendre ce qu'elles appelaient la liberté d'importuner. Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, vous avez lu ce nouveau texte, Catherine Deneuve s'excuse, mais oui, elle ne change pas vraiment de position.
Oui, des excuses en assumant la position peut sembler inconfortable, mais visiblement des précisions étaient nécessaires après la tribune de mardi dernier. Dans le texte paru ce matin dans Libération, Catherine Deneuve tient avant tout à préciser sa pensée sur le harcèlement, le viol, les agressions qu'elle condamne, peut-être de manière plus explicite que mardi dernier. Et c'est aux victimes d'actes odieux et à elle seule que la comédienne présente ce matin ses excuses. Pour le reste, je suis une femme libre, écrit-elle, et une signataire du manifeste des 343 salopes en 1971, à qui, faut-il comprendre, il n'est pas possible de donner une leçon de féminisme. Alors, si elle se désengage des déclarations télévisuelles de certaines des signataires de la tribune sur la liberté d'importuner, Catherine Deneuve assume ce qu'elle appelle un texte vigoureux, un texte qui, d'après une autre de ses signataires, la psychologue Sarah Chiche, était nécessaire pour faire avancer le débat.
Nous persistons, nous signons, nous ne nous excusons pas du texte que nous avons écrit. Nous sommes d'accord avec Catherine Deneuve. Nous nous engageons contre les excès du hashtag balance ton porc quand cela a contribué à condamner des innocents. Nous persistons à dire que le viol est un crime et que le viol à ce titre doit être condamné.
Voilà, on a ce matin une tribune de plus dans un débat qui en a occasionné beaucoup depuis la semaine dernière. À défaut de revenir sur la liberté d'importuner et sur un concept qu'il restera à préciser, ce texte de ce matin, elle mérite par exemple de relancer la réflexion sur la liberté de création. Catherine Deneuve insiste sur le danger du nettoyage des œuvres de Sade ou de Gauguin par exemple. Pour ce genre de débat, c'est vrai qu'une tribune vaut toujours mieux qu'un hashtag.
Benoît Bouscarel, merci. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, critique le projet de loi annoncé par le président Macron contre les fake news, les fausses nouvelles. Selon Sergueï Lavrov, cette loi, qui est encore au stade du projet, est une restriction de la concurrence dans la sphère médiatique. Les fausses nouvelles ne seront définies, dit-il, que par un seul parti, sans discussion, sans preuve, en faisant fi de tout argument. Fin de citation. Le pétrolier iranien qui a coulé dimanche en mer de Chine orientale après avoir brûlé pendant une semaine a relâché hier une nappe de pétrole qui mesure maintenant près de 20 km de long. C'est la plus grave marée noire dans le monde depuis 1991, quand 260 000 tonnes de brut s'étaient déversées en mer au large des côtes de l'Angola dans le sud de l'Afrique. 12h50 sur France Culture, on revient vers notre invité pour la séquence interview, Marie-Jeanne Audy, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats, avec une question de Florence Turme.
Oui, les présidents se succèdent et finalement les réformes principales n'arrivent pas, en tout cas pas celles que vous attendiez, pas d'indépendance du parquet, rien de changé sur la nomination des magistrats. Mais finalement, pourquoi est-elle si importante à vos yeux, cette indépendance du parquet que Emmanuel Macron dit que l'on peut exercer de manière totalement différente finalement?
Alors, les magistrats du parquet exercent des prérogatives extrêmement importantes et qui tiennent également à la liberté de nos concitoyens. Ce sont les magistrats du parquet qui poursuivent devant les tribunaux correctionnels. C'est eux qui exercent l'action publique. Dans 97% des cas, c'est eux également qui mènent les enquêtes en matière pénale. Donc, il est extrêmement important que ces enquêtes, ces poursuites soient effectuées à l'abri du pouvoir exécutif et qu'on garde garantisse aux citoyens qu'il n'y a pas de pression sur l'exercice donc de l'activité juridictionnelle de ces magistrats
du
parquet.
Que ce ne soit pas exercé de manière, on va dire, inféodée, pour être
de manière
précis,
inféodée,
on peut
exactement,
peut-être avoir des
sous
exemples
la pression, sous la pression. Mais les suspicions qui ont entouré le classement sans suite d'une affaire récente, de l'affaire Ferrand, je ne dis pas qu'elles étaient fondées, mais il y avait suspicion. Donc le simple fait qu'il y ait suspicion démontre bien qu'il faut couper ce lien indu entre le pouvoir exécutif et les magistrats du parquet.
Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Les magistrats, je veux dire.
En ce qui concerne les magistrats, oui, je ne connais pas de magistrats qui pense que il faut laisser la carrière, la nomination des magistrats du parquet entre les mains du garde des Sceaux.
Alors pourquoi cette suspicion, pourquoi cette incapacité plutôt, on va dire, des politiques à ce moment-là à réformer ce que vous appelez tous de vos voeux d'un point de vue professionnel?
Oui, c'est un langage très ambigu de la part des politiques. Ils disent qu'ils veulent rétablir la confiance du public dans l'autorité judiciaire et qui n'accepte pas de couper ce lien qui est l'une des raisons principales pour lesquelles il n'y a pas cette confiance. Peut-être pense-t-il que c'est plus pratique d'avoir un procureur qui soit dépendant qu'un procureur indépendant. C'est une hypothèse que j'émets.
C'est lié au système français selon vous? C'est particulier ou ça existe aussi dans d'autres pays démocratiques?
Il y a des parquets dans d'autres systèmes démocratiques qui n'ont pas forcément le même statut que les magistrats français. C'est quelque chose de particulier, le ministère public à la française, quand même.
Alors, Emmanuel Macron, vous parliez de la confiance. Cette confiance, ou plutôt la défiance aussi présumée parfois des citoyens par rapport à la justice, Emmanuel Macron en parle aujourd'hui, il parle d'effectivité des droits, d'effectivité de la justice. Il dit qu'il faut rebâtir, reconstruire la confiance. Est-ce que c'est pas une façon de faire un pas de côté par rapport à l'indépendance du parquet qui était attendue et finalement de replacer sur ce terrain la justice qui ne répond pas aux attentes des citoyens et notamment sur la question des peines?
Ça veut dire quoi, effectivité peut-être d'abord?
Mais effectivité, je pense qu'il fait parler effectivement des lenteurs de la justice, de la difficulté d'accéder au juge, non pas tant d'ailleurs d'accéder au juge que d'avoir une décision rapide. C'est un problème de moyens. Alors plutôt que de donner les moyens à la justice, le choix qui est fait manifestement aujourd'hui est d'éviter justement la saisine du juge. On parle de limiter le droit d'appel, et là évoqué dans son discours. D'autres chantiers sont en cours avec, par exemple, la possibilité d'empêcher l'action au juge s'il n'y a pas eu préalablement une tentative de conciliation ou de médiation. Donc nous sommes dans un phénomène d'évitement plutôt que d'un...
Mais la médiation, ça vous paraît...
Ça nous paraît une excellente chose, mais on ne peut pas fixer donc cette médiation comme un préalable obligatoire dans toutes les affaires, évidemment.
Alors il dit surtout qu'une peine prononcée doit être une peine exécutée. On a envie de savoir si c'est vraiment le cas ou pas, ou si le débat tourne en rond sur ce sujet.
Tout le monde sait qu'il n'y a pas suffisamment de place en détention pour exécuter toutes les peines immédiatement. Et là encore, est-ce que les réflexions, ça va être peut-être d'éviter l'emprisonnement pour les courtes peines, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en détention. Mais pour ça, il faut aussi donner des moyens aux services de prévention, aux services d'aide à la détention. Et ce n'est pas le cas actuellement.
Le mouvement de surveillants de prison aujourd'hui, vous le comprenez?
Oui, on peut le comprendre parce que tout le monde sait, la France a été, l'État français a été condamné pour les conditions de détention indignes. On sait également que les travaux les activités des surveillants sont extrêmement difficiles dans des conditions de sécurité qui sont pas garanties. On l'a vu encore récemment, donc on le comprend effectivement.
Alors cet après-midi, Nicole,
dernière question
sur les attentes que vous pouvez formuler par rapport aux grands chantiers qui vont être annoncés cet après-midi par Nicole Béhoubet. La concertation n'avait pas été, vous l'aviez dit, à l'USM à la hauteur de vos espérances. Pour quelles raisons?
C'était une concertation de pure façade et ce qu'on espère, c'est qu'on ne va pas nous annoncer cet après-midi une nouvelle réforme de la carte judiciaire avec des suppressions de tribunaux qui seraient remplacés par des sites. Mais on sait très bien que les sites, c'est un pas, c'est une transition vers la fermeture définitive de ces lieux.
Voilà, on verra ces annonces cet après-midi. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Audi de l'USM, d'avoir accepté d'être dans ce studio aujourd'hui. Un mot de météo, deux mots plutôt, accalmie au sud, dégradation.
précipitation au nord, température 6 à 15 degrés, édition réalisée avec Brice Garcia, prochain journal 18h avec Aurélie Kiffer.